Et cours de codège. Excellent résultat. Encadrement professionnel. Cours de méthodologie. Contact permanent avec les parents. Classe spacieuse. Cantine par service traiteur. Possibilité de bourse. Collège Oelitzrac dans un quartier résidentiel Paris 20e, métro Gambetta.
01 43 66 97 18.
Oelitzrac.fr.
Oelitzrac.
Professionnalisme, rigueur et bienveillance.
Bonjour, c'est Bernard Amboirf. Retrouvez Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, tous les vendredis après-midi à 16h30. Avec Rav Eli Lemel, Rav Mordechai Biton, Rav Guy, tous les vendredis après-midi sur Radio Shalom, Kabbalat Shabbat à 16h30.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom, le journal, vous est présenté par Bernard Amboirf.
Bonsoir à tous. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a laissé entendre que les médiateurs dans les négociations en cours sur les otages présenteront une proposition de cessez-le-feu mise à jour à Israël et au Hamas dans les prochains jours. Une offre à prendre ou à laisser, a-t-il dit. Il ne veut pas de négociations après la divulgation de ce document. On est d'accord ou pas? Le Hamas ne cherche pas une fin rapide du conflit, révèle un document obtenu par le journal Bild, qui est un journal allemand. Ce document, qui vient de la direction du Hamas dans la bande de Gaza, a été récupéré dans des ordinateurs sur place par Tzahal, et il montre toute une stratégie qui s'étale sur plusieurs années pour faire pression sur la société israélienne, pour épuiser les forces israéliennes et obtenir une pression maximale de l'opinion internationale. L'armée israélienne quitte Jenin après une opération de 10 jours. L'armée israélienne a quitté cette ville avec le plus long raid jamais mené par l'armée sur les territoires de Judée-Samarie. Nombreuses arrestations durant des manifestations pour la libération des otages cette semaine. Selon un groupe d'avocats qui s'occupe des détenus, 110 arrestations ont été effectuées la semaine dernière, dont 75 à Tel Aviv et le reste à Jérusalem, Haïfa ou encore d'autres endroits. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a adressé une lettre à Benjamin Netanyahou. Il lui demande que les combats en Judée-Samarie, c'est-à-dire en Cisjordanie, fassent partie des objectifs de guerre clairement énoncés par le gouvernement. On part tout de suite pour Jérusalem, on le retrouve, notre correspondant permanent Dror Even Sapir. Bonsoir Dror.
Bonsoir.
Dror, il y a un deuxième front dont personne ne parle. Il y en a trois en fait. Il y a Gaza, ça tout le monde le sait. Il y a le Liban, tout le monde en parle. Il y en a un troisième. Ce troisième, c'est celui de Judée-Samarie, Cisjordanie, où des combats très très durs ont lieu tous les jours. Il y en a un rapport qui a été publié aujourd'hui dans la presse israélienne qui s'inquiète de voir les Iraniens vouloir armer les Palestiniens de Judée-Samarie autant qu'ils ont amené ceux de Gaza. Alors évidemment, ce sera plus dur pour eux, parce que les Israéliens sont en Judée-Samarie, ce qui n'était pas le cas dans ce sanctuaire qui était devenu pour les Iraniens la bande de Gaza. Mais vraiment, ce soir, en Israël, on s'inquiète sur ce que devient ce deuxième territoire palestinien dont personne ne parle tellement que ça.
Alors, c'est effectivement un motif d'inquiétude de plus en plus saillant en Israël. Il y a eu deux événements aujourd'hui importants. Le premier, c'est la fin, semble-t-il, de l'opération menée par Tzahal dans la ville de Jenin et ses environs. C'est l'un des épicentres des activités terroristes Cisjordanie. C'était une opération de très grande ampleur qui aurait fait sans doute la une des journaux et des médias s'il n'y avait pas cette situation de guerre dans la bande de Gaza et également sur la frontière israélo-libanaise, puisque c'est l'opération la plus grande menée par les forces armées israéliennes en Cisjordanie depuis l'opération Rempart. C'était en 2002, donc il y a de nombreuses années maintenant, pendant la seconde intifada, cette opération qui d'ailleurs avait mené un terme à la seconde intifada. Opération de grande ampleur qui n'est pas totalement terminée, mais en tout cas les troupes se sont retirées de la ville de Jenin. Et il y a un autre événement qui risque bien de faire parler de lui, c'est la mort d'une militante pro-palestinienne de nationalité américaine et d'origine turque, elle détenait la double nationalité américaine et turque. Aysenur Ezgi Eygi, âgée de 26 ans, aurait été tuée par inadvertance par les forces de Tsahal au cours d'une manifestation dans le territoire de Cisjordanie. Bien évidemment, si cette information se confirme, elle aura des conséquences politiques sans doute délicates à gérer pour Israël. Cela dit, l'implication de l'Iran dans les tentatives de déstabilisation des territoires de Cisjordanie est bien connue des services secrets israéliens depuis déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années. Un nombre important d'armes provenant de l'Iran circulent dans les territoires de Cisjordanie, et l'un des principaux objectifs des forces de sécurité israéliennes, c'est de déjouer ce trafic d'armes et de faire en sorte que ces armes ne parviennent pas aux mains des opérations terroristes, des organisations terroristes. Cette implication de l'Iran dans les activités terroristes dans les territoires de Cisjordanie a d'ailleurs été soulevée par le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, au cours de son entretien ce matin à Jérusalem avec son homologue allemande en visite en Israël.
Dror Even Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Jérémy Chiche-Portiche nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir Bernard.
Alors, la fumée blanche est apparue au-dessus de l'hôtel de Matignon. On a un Premier ministre, on connaît son nom. Et surtout, grosse surprise, les amis d'Israël constatent que, bon, c'est la droite qui gagne et c'est un ami d'Israël.
Figure emblématique de la droite française, ancien ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier vient d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Immédiatement après sa nomination, ses prises de position très favorables envers l'État d'Israël sont ressorties sur le web. Déjà en 2004, alors qu'il est à la tête du Quai d'Orsay, il avait déclaré que remettre en cause la légitimité de l'État juif n'était pas acceptable pour la France. Il avait alors plaidé pour la création d'un État palestinien stable, démocratique et qui ne menace pas la paix d'Israël. Une thèse qu'il défendra à nouveau au moment de la visite d'Emmanuel Macron en Israël après les attentats du 7 octobre. Michel Barnier fera lui-même le voyage par deux fois, d'abord en octobre, puis en février à l'occasion des 6 mois du pogrom. Le futur Premier ministre avait alors partagé sur son compte X à Tel Aviv, aux côtés des familles des victimes et des 132 otages du Hamas après l'attaque terroriste du 7 octobre. Ensemble, ici sur la place des otages comme à Paris aux Invalides, c'est l'honneur de la France d'être solidaire. Bring them home now.
Retour au Proche-Orient avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a laissé entendre, je vous le disais en titre, que les médiateurs dans les négociations en cours sur les otages présenteront une proposition de cessez-le-feu mise à jour à Israël et au Hamas dans les prochains jours. Et c'est une preuve, une proposition, a-t-il dit, une offre qui s'appelle « apprendre ou à laisser ». Qu'est-ce que ça signifie ? Il n'y a pas de négociation après la présentation de cette proposition, où on est d'accord, où on est contre. Le Hamas, d'ailleurs, ne cherche pas une fin rapide du conflit, selon un document qui a été obtenu par le journal allemand Bild. Il a été retrouvé, ce document, sur un ordinateur saisi par Tsahal dans la bande de Gaza, et on y voit toute une stratégie qui est définie par le Hamas pour faire pression sur la société israélienne, mais aussi sur l'opinion publique internationale. Et il ne s'agit pas du tout d'arrêter le conflit tout de suite. Nombreuses arrestations durant les manifestations pour la libération des otages cette semaine. Selon un groupe d'avocats qui s'occupe des détenus, 110 arrestations ont été effectuées la semaine dernière, dont 75 à Tel Aviv et le reste à Jérusalem, Haïfa et d'autres villes. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a adressé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il lui demande que la défaite du Hamas soit inscrite officiellement dans les buts de guerre. Donald Trump prédit la fin d'Israël en cas de victoire de Kamala Harris, rien de moins, lors d'une allocution vidéo devant un rassemblement de juifs républicains. L'ancien président américain, qui est candidat, a fait une déclaration. Si la vice-présidente Kamala Harris accède à la Maison-Blanche, Israël va cesser d'exister, a-t-il dit. Des centaines de stars hollywoodiennes ont signé une lettre adressée à Joe Biden. Ils appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Nous exhortons votre administration, le Congrès et tous les dirigeants mondiaux à honorer toutes les vies en Terre Sainte et appeler à féliciter un cessez-le-feu sans délai, une fin des bombardements et la libération en toute sécurité des otages, affirment ces stars qui sont parmi les plus prestigieuses d'Hollywood. On retrouve à présent les carnets de Catherine Garçon. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Catherine, alors on va parler d'Ouman, on est à la veille de Rosh Hashanah, et dans vos carnets, on trouve cette semaine que déjà les Américains ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller en Ukraine, Ouman c'est en Ukraine, pour Rosh Hashanah, et alors, plus extraordinaire, il n'y a aucun ministre israélien qui veut aider au pèlerinage. Personne ne veut s'en occuper.
Alors, on va commencer par les États-Unis. Alors, le State Department a publié un avis, et l'avis, c'est pas pour les Américains en général, c'est pour les Juifs qui veulent aller à Ouman. Ils leur disent, depuis le début de la guerre en Ukraine, Ouman a reçu plusieurs attaques de missiles russes et qui ont touché des bâtiments civils et des infrastructures, y compris des synagogues. Donc, de plus, disent les Américains, et ça c'est important, les autorités locales ont annoncé qu'Ouman n'avait pas assez d'abris anti-aériens pour y mettre les pèlerins. Et donc, l'Ukraine est toujours sous couvre-feu, et ces restrictions vont aussi toucher les pèlerins qui veulent aller à Ouman. Donc, dit le département d'État, nous disons qu'il ne faut pas partir en Ukraine et pas partir à Ouman. Maintenant, du côté israélien, alors c'est un peu plus compliqué, mais pas vraiment. L'année dernière, l'année dernière, on était quand même avant le 7 octobre, il ne faut pas l'oublier, il y avait un ministre qui s'était chargé de la coordination de l'arrivée des pèlerins. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, passer par l'aéroport de Kiev, quand on sait ce qui se passe avec les Russes, c'est pas possible. Enfin, du moins, c'est très nettement décommandé. Donc, qu'est-ce qui se passait ? C'est que les pèlerins qui venaient d'Israël allaient dans tout un tas d'endroits, en Moldavie, en Hongrie, enfin tout ce qui est voisin de l'Ukraine, et rentraient comme ça, et après allaient jusqu'à Ouman. Comme ces petits postes frontières n'étaient pas équipés pour recevoir un afflux de personnes, là c'est un afflux de pèlerins, mais un afflux de personnes, l'ambassade israélienne envoyait des gens qui parlaient hébreu, négociaient avec les autorités locales, etc. etc. Donc il s'est passé il y avait toute une infrastructure qui se mettait en place. Or, cette année, aucun ministre ne veut mettre cette infrastructure en place, parce qu'ils ont d'abord d'autres chats à fouetter avec la guerre. D'autre part, ils veulent pas, parce que vu la situation en général en Europe, ils ont peur d'un attentat. Donc, ils veulent pas aider. Donc, pour le moment, il y a quelques rabbins locaux, dont le Shaliar Lubavitch en Moldavie, qui essayent de négocier des choses, qui appellent les Israéliens à l'aide. Mais pour le moment, aucune aide n'est prévue pour ceux qui voudraient quand même passer la frontière, qu'on n'empêchera pas de passer, mais qui risquent d'attendre des jours et des jours avant que le flot de touristes soit traité. Voilà.
Dans vos carnets, on retrouve...
Ça s'annonce pas bien pour Ouman, mais tel qu'on connaît les Breslev, ils iront quand même.
Ils vont y aller. Enfin, quelques-uns, ouais. Mais il y en aura. Selon des experts de l'université de Tel Aviv, le siège de Masada n'aurait duré que quelques semaines. Et alors, on est tous en larmes, parce qu'on dit, mon Dieu, et mon enfance, tout ce que j'ai cru, tout ce que j'ai aimé, les héros de Masada, ça a duré quelques semaines et c'était plié.
Voilà, exactement. Alors, ça fait déjà quelque temps qu'on se demandait si vraiment le siège de Masada avait duré des années, parce que ça semblait tellement un peu spécial.
Mythique, quoi. Mythique.
Hein, oui, mythique. Que tant de Romains en bas de Masada avec leur grande rampe aient mis 3 ans à venir à bout d'un millier de personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier que Flavius Joseph dit qu'ils étaient 960, d'accord ? Donc, ce n'était pas énorme. Mais bon, Flavius Joseph, dans son texte, n'a jamais dit d'ailleurs que ça avait duré 3 ans, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est né, comme quoi ça avait duré des années, l'héroïsme, bon, etc. Là, les experts de l'université de Tel Aviv, avec d'autres experts, ont décidé d'appliquer des méthodes modernes pour essayer de réfléchir à ce qui s'était passé. Donc, ils ont été faire des photos avec des drones, ils sont mis avec des ordinateurs, avec des programmes spéciaux, etc. Ils ont calculé combien de temps, logiquement, ça avait mis aux Romains pour bâtir la grande rampe que tout le monde peut voir et qui est très importante au niveau archéologique, parce que c'est la la plus belle, enfin la rampe de siège la mieux conservée au monde. Donc, la rampe de siège, bien sûr, faite par des Romains. Et ils ont calculé qu'en fait, vu le nombre qu'ils étaient, les Romains, plus les esclaves qu'ils avaient amenés sur place, qui étaient aussi des esclaves juifs, et combien chaque personne pouvait porter de terre et de choses, etc., pour construire le mur, la rampe, les postes, etc., ils ont dit plusieurs semaines, mais pas plus de plusieurs semaines. Or, on sait que du moment que la rampe a été prête, elle a été suivie assez rapidement d'une entrée des Romains à Masada, et les défenseurs de Masada ont vu effectivement qu'il n'y avait rien à faire. Alors, comme disent les archéologues de Tel Aviv, de l'université de Tel Aviv, ça n'enlève rien à l'héroïsme et aux des combattants juifs. Ils étaient prêts à 1000 à affronter toute l'armée romaine. Ils ont résisté autant qu'ils le pouvaient. Seulement, disent-ils, on va continuer les investigations, mais il semblerait bien que le beau siège de Masada ait duré maximum, je sais pas, 2 mois, 3 mois, à tout casser.
Max. Alors, dans vos carnets aussi, suite aux recommandations du groupe de travail sur l'antisémitisme, Harvard, l'université, va renforcer le service de nourriture cachère sur le campus, et j'ai presque envie de rire, Catherine. D'ailleurs, je ris. Pendant un an, on a vu les images des pires affrontements, des humiliations, et donc on a des experts qui disent, bon, on va lutter contre l'antisémitisme, on va faire des sandwichs cachères au snack. On va leur donner à manger cachère. Mais c'est quoi cette histoire?
C'est vrai que ça peut sembler un peu...
C'est super marrant, en fait.
C'est un peu drôle. Mais il faut comme ça, il faut quand même mettre les choses...
Enfin, mettre des bisliers à la cafétéria, ça va aller mieux.
Il y avait déjà des bisliers, d'ailleurs. Non, ce qui se passe, c'est que ce groupe de travail sur l'antisémitisme et tout ça a 2 volets. Alors, il y a le volet, on va dire, entre guillemets, sérieux, mais tout est sérieux, qui, effectivement, va recommander de prendre des vraies mesures contre les étudiants qui martyrisent leurs copains juifs, etc., les manifestations, ce qu'on appelle les encampments, là, quand ils dressent les tentes et où ils abîment toutes les universités. Ça, c'est un volet. Maintenant, et il faut le comprendre, le deuxième volet, ça a été de dire, pour montrer aux juifs qui sont les bienvenue sur ce campus, on va améliorer les conditions dans lesquelles ils étudient. Donc, une des conditions, ça a été pour ça qu'il y a eu ces recommandations. Il y avait déjà des sandwichs cachers, etc. Mais maintenant, Harvard va monter plusieurs endroits où les étudiants juifs ou les autres, mais les étudiants juifs qui le désirent, pourront avoir des vrais repas, des repas chauds sur place, pour qu'ils se sentent mieux. C'est tout. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Les étudiants vont en bénéficier parce que c'est plus sympa de manger un plat chaud qu'un donut. C'est pour leur permettre un environnement plus favorable. Et d'ailleurs, cette même groupe de travail a recommandé qu'on soit plus souple dans l'application des jours de fête et pour permettre aux étudiants de passer des examens les jours de remplacement, les jours où ils ne peuvent pas venir.
Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, on retrouve vos carnets. Donc on a appris plein de choses. Masada, quelques semaines, pas plus. Et mieux vaut éviter d'aller à Oman. Merci à vous, Catherine. Bonsoir.
Bonsoir.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly.
Quelle belle chanson. Quelle belle chanson. Mais par contre, qu'est-ce que ça vient faire dans notre journal? On va poser la question à Chaim Musicante qui nous a rejoint dans les studios. Bonsoir, Chaim.
Bonsoir, Bernard.
Chaim, pourquoi on entend Simone Graffian qui est dans notre journal?
Tout d'abord pour se faire plaisir, oui. Et ensuite...
Tout d'abord parce que c'est une bonne idée.
Et ensuite parce que c'est un anniversaire. C'est que, à quelques jours près, c'était le 4 septembre 1968, le lauréat sort sur les écrans parisiens, et vous vous en souvenez, c'est vraiment un film culte, le début du film, on voit Benjamin qui est sur un tapis roulant qui arrive à l'aéroport de Los Angeles, Et le générique, c'est cette chanson de Simon Garfunkel.
Ok, alors on vous retrouve tous les dimanches sur Radio Shalom pour Un jour, une histoire. Je voudrais préciser d'ailleurs, parce que je l'ai dans les mains, que vous êtes l'auteur d'un nouveau livre qui s'appelle « Héros du 7 octobre à 6h30, leur destin va basculer ». C'est aux éditions Glyph. Et c'est des portraits de héros du 7 octobre dont effectivement la vie a basculé en quelques minutes. Mais chaque dimanche, on vous retrouve pour Un jour, une histoire, où vous prenez pour prétexte, on va dire, une date. Et donc là, cette fois, vous avez choisi celle-là et vous allez nous parler de Dustin Hoffman.
Oui, parce
mais
que...
on aurait pu faire aussi Simon Garfunkel.
Alors, on le refera.
Ils sont juifs aussi.
C'est promis, on le refera.
Alors, Dustin Hoffman.
Alors,
écoutez,
Dustin Hoffman, parce que c'est son premier rôle.
Oui.
Il a 31 ans, il faisait jusqu'alors du théâtre à Broadway. Il a été repéré par Mike Nichols. Alors, Mike Nichols, ceux qui suivent le cinéma, son nom résonne parce que l'année précédente, il fait son premier film, Qui a peur de Virginia Woolf, avec Elizabeth Taylor, Richard Burton, et Taylor va remporter un Oscar. Et pour l'anecdote, puisque tout est dans tout, Mike Nichols, c'est pas son vrai nom, c'est un juif dont les parents étaient originaires du l'Union soviétique, se sont installés à Berlin, et en 1938, pratiquement au dernier moment, ils partent de Berlin pour les États-Unis.
Dustin Hoffman qui revendique un peu son judaïsme.
Complètement. Écoutez, alors,
c'est comme les Douglas.
Oui, alors écoutez, les Douglas...
Autre jour, une histoire.
on y reviendra, vous savez que... J'ouvre une parenthèse, mais que Kirk Douglas a refait sa bar mitzvah et il s'était promis de la refaire une troisième fois, mais bon, il est mort un petit peu avant. Alors, en ce qui concerne Dustin Hoffman, au début, non. Au début, non, parce que à Los Angeles, où il habite, c'est un climat antisémite et il a peur de s'avouer en tant que juif. Et puis, c'est vraiment à partir des années 80, il va épouser en seconde noce une juive qui lui redonne le sens du judaïsme. Il commence à faire toutes les fêtes, le Shabbat. Ils ont 4 enfants, bien sûr, font tous leur bar mitzvah et leur bat mitzvah. Et puis, il y a un moment extraordinaire, c'est qu'il y a une émission aux États-Unis sur une chaîne qui s'appelle PBS, qui ressemble un petit peu à l'émission qui existait autrefois, qui s'appelait Perdu de vue. Vous vous rappelez, où on essaie de retrouver les racines. Et les journalistes de cette émission ont retrouvé les racines de Dustin Hoffman, parce que Dustin Hoffman d'un côté est roumain, l'autre côté est ukrainien. Ils ont retrouvé les racines de son grand-père, lequel grand-père avait essayé de sauver sa famille en Ukraine, et il avait été tué par les soviétiques. Et on a vu en direct Dustin Hoffman en train de pleurer.
De s'effondrer, hein, de voir.
Oui, absolument.
High Music On, chaque dimanche dans le journal de 18h, j'ai le plaisir de vous recevoir pour parler d'un personnage ou d'un événement différent. Et donc là, cette fois-ci, dimanche prochain, ce sera Dustin Hoffman. Merci à vous. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci d'y avoir prêté attention. Vous retrouvez dans un instant du côté de chez Schwartz. Une émission qui vous est présentée par Sandrine Schwartz.
Radio Shalom, la radio qui vous écoute. La radio qui vous écoute.
Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur kkl.fr.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer? Vos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, 2 showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Baideco.fr.
La société iCube vous invite à la 87e édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement israélien qui se tiendra à Paris le dimanche 8 septembre prochain à partir de 10h30 au Salon Hoche, 9 avenue Hoche, Paris 8e. Les plus grands noms de l'immobilier israélien seront présents pour vous proposer une palette de programmes dans tout le pays. Venez à la rencontre de plus d'une vingtaine de promoteurs prestigieux, d'agents immobiliers expérimentés, de courtiers avec des solutions adaptées, d'avocats et d'un fiscaliste pour vous informer. Des programmes de qualité, neufs, deuxième main ou location, à des prix promotionnels très attractifs et des facilités de paiement inédites. Plus que jamais, Israël a besoin de votre soutien et vous êtes prêt à franchir le pas pour construire votre avenir en Israël. Nous vous attendons nombreux le dimanche 8 septembre à partir de 10h30 au salon Hoche, métro Charles de Gaulle Étoile. Entrée gratuite et sans inscription. iCube, votre partenaire pour investir en Israël depuis 1990.
Héros du 7 octobre à 6h30, Leur destin va basculer, c'est le nouveau livre de Chaim Musiquant aux éditions Glyph. Le 7 octobre 2023, jour de Shabbat et de Simchat Torah, le Hamas attaque simultanément le festival de musique Nova et 33 villes et kibboutzim du sud d'Israël. 1200 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été massacrées. Chaim Musiquant, écrivain, journaliste et président des Amis de Radio Shalom, brosse le portrait de 50 anonymes qui, en ce jour du 7 octobre, ont fait preuve d'un immense courage. Retrouvez Chaim Musiquant à l'Écuge au 119 rue Lafayette à Paris le mercredi 18 septembre à 19h30 pour la sortie de son livre.
Shalom. 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 Vous voulez apprendre l'hébreu ?
Rejoignez l'Ulpan de l'Écuge, Zéhamakom, avec ses 12 niveaux en classe, en ligne ou en hybride.
Zéhamakom.
Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10e.
01 53 20 52 57.
Écuge.fr.
Écuge.fr.
Porte ouverte le 1er et le 8 septembre à partir de 14h.
Les cours démarrent le 9 septembre.
Zéhamakom.
Écuge.fr. Écuge.fr.
Collège Oel Yitzhak, un établissement pas comme les autres. Un mot pour définir le collège Oel Yitzhak ? Professionnalisme. Le collège Oel Yitzhak met au service des élèves une équipe pédagogique très compétente, une méthodologie de travail basée sur une longue expérience et un encadrement professionnel en contact permanent avec les parents. Collège Oel Yitzhak, Paris 20e.
01 43 66 97 18.
OelYitzhak.fr.
OelYitzhak.fr.
OelYitzhak. Professionnalisme, rigueur et bienveillance.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Saada, qui nous parle de son roman « Du jasmin à l'érable » qui vient de paraître chez Balzac Éditeur. Bonsoir honorable, est-ce que c'est Bonsoir. Comme ça qu'il faut dire ?
Oh Jacques Saada, ça suffira, c'est très gentil.
Alors on va expliquer pourquoi, hein, parce que vous avez un certain nombre de casquettes, vous avez vécu 10 vies en une, vous avez été enseignant, administrateur scolaire, linguiste, traducteur, dirigeant d'entreprise et d'organismes à vocation communautaire, conseiller en développement international, auteur... homme politique, vous êtes le premier juif séfarade élu au Parlement canadien et le premier à avoir occupé des fonctions ministérielles. Grâce à cela, vous avez reçu le titre de conseiller privé du roi pour le Canada et c'est pour ça qu'il faut vous dire honorable.
Mais à vous entendre, je me sens vieux.
Oh, pas tellement. Hein. Et alors, vous avez, il faut dire aussi, hein, vous avez reçu plusieurs distinctions. On vous a confié des fonctions parlementaires ou diplomatique prestigieuse et vous êtes actuellement président du musée de l'Holocauste de Montréal et président sortant de la communauté séfarade unifiée du Québec notamment. J'ai envie de dire ouf.
Oui, comme vous aussi.
Alors votre actualité qui nous vaut votre présence ici aujourd'hui, c'est la parution d'un roman autobiographique qui s'appelle Du jasmin à l'érable, donc il vient de paraître chez Balzac Éditeur et vous y retracez un parcours de vie riche et complexe. Vous racontez la vie d'un baby-boomer qui quitte sa Tunisie natale pour la France, un bref passage en Israël puis l'installation au Canada, où vous surmontez de nombreux défis pour construire une carrière diversifiée, on l'a vu, et élever une famille avec votre épouse Nicole. Fasciné par la politique, vous avez fini par devenir député au Parlement canadien et occuper plusieurs postes ministériels. Alors c'est un livre qui se lit vraiment facilement, on le dévore en en quelques heures, il ne nous tombe pas des mains. Il y a beaucoup d'anecdotes, c'est bien écrit, hein, il faut le dire, il y a beaucoup d'émotions. Moi-même, j'ai versé quelques larmes, je dois vous dire, et sans doute en raison des résonances avec mon histoire familiale maternelle. Et finalement, c'est 75 ans d'un parcours marqué par l'amour du français, du sionisme et de l'humanisme que vous nous racontez. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce récit à ce moment-là précis de votre vie ?
Il y a plusieurs choses qui se sont combinées. D'abord, merci de me recevoir, c'est très gentil à vous. La première, d'abord, c'est que mes enfants ont insisté pour que je laisse quelque chose d'écrit de ce que j'ai vécu. Eux, ils l'ont vécu aux premières loges, mais les petits-enfants ne le vivent pas de la même façon, etc. La seconde chose, c'est que, je ne sais pas, mais il me semble qu'avec l'âge, il y a des questions qu'on aurait voulu poser à nos propres parents et grands-parents qu'on n'a jamais posées, et on regrette parce qu'il nous manque des éléments. Je voulais essayer de court-circuiter un petit peu ça, en mettant ça sur la table. Et puis, la troisième chose, vous savez, c'est Boris Vian qui a écrit, qui a parlé du cerveau comme d'un organe qui nous servait à nous prévoir sans vie. Je voulais donc court-circuiter ces possibilités-là aussi, en écrivant avant que ça s'en aille.
Alors, vous avez vécu plusieurs vies, hein, vous le dites. La première étape, c'est cette enfance en Tunisie. Quand on vous lit, on a l'impression que c'est idyllique, c'est touchant, hein, de voir les mots que vous posez à ces impressions. Vous expliquez néanmoins que si votre famille a quitté ce pays, ce n'est pas de la crainte des dirigeants, mais de la rue, de la crainte de la rue. La formule est très forte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et puis nous parler un petit peu de cette enfance et est-ce qu'elle continue de vous habiter aujourd'hui ?
Absolument. Notre identité, elle est faite de couches qui se superposent les unes sur les autres. Alors bien sûr, c'est la couche essentielle, c'est le fondement, c'est la racine. Quand j'étais en Tunisie, bien sûr, j'étais petit, donc la politique n'avait pas vraiment beaucoup d'impact sur moi, mais je me souviens de moments extrêmement heureux. J'en reparle un petit peu dans mon livre, des moments où on allait voir les résultats du foot le dimanche soir à la presse, où mon père et ma mère m'emmenaient attraper des papillons au Belvédère. Enfin, je me souviens des odeurs. Mon grand-père qui m'emmenait au marché... et qui ramenait avec le hamel, ramenait avec nous les affaires qu'il me laissait pour une bouchée de pain. Enfin bref, tout ça, je l'ai vécu. Et donc, à l'écart de la dimension purement politique des choses, Bourguiba avait une excellente réputation par rapport au monde juif en général. Je vous rappelle que, d'ailleurs, même ça, je l'ai appris beaucoup plus tard, bien sûr, mais il avait pris des positions contre la Ligue arabe en faveur d'Israël, ce qui avait valu d'être ostracisé. Alors, mais la rue, elle, était conditionnée beaucoup plus par les événements, qu'il s'agisse de la création d'Israël, qu'il s'agisse de Suez en 56, etc. Et la rue est très difficile à contrôler parce qu'elle devient irrationnelle. Et c'est de ça qu'on avait peur surtout, je pense.
Alors j'ai envie de lire certains passages, mais je pourrais tout lire, hein. Là j'ai le livre sous les yeux. Vous parlez de votre maman comme une grande cuisinière, qui donnait ses recettes, mais quand même pas trop, hein, parce que, et puis c'était compliqué, hein, parce que tu mets un peu de ceci, un peu de ça, de ça, pardon, que veux-tu dire par un peu tu sais, pas beaucoup. Autant dire que la pkaïla, la mlouchia ou le psal ou l'oubia n'étaient jamais aussi bons que chez maman. La tchakchouka de maman avec une baguette de pain frais et le paradis était descendu sur terre, et que dire de ces manicotis ou de ce fritège. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme vous l'expliquez, c'est que vous mêlez finalement de la politique avec un regard que vous posez avec celui que vous avez aujourd'hui, et finalement ces souvenirs d'enfant avec les fins de semaine à Mamlif, le village natal de votre papa, les mets que vous mangiez, les rencontres familiales, les rencontres peut-être aussi avec les autres musulmans, les souvenirs du train, de la plage, comment elle était. Et ça, c'est vraiment très enrichissant, et d'autant plus quand on a de la famille d'origine tunisienne. Alors, après cet épisode, il y a une nouvelle étape, c'est l'arrivée en France, qui est plutôt chaotique. D'excellents élèves en Tunisie, vous devenez un cancre, pour ne pas dire autre chose. D'une vie confortable, vous passez à une vie faite de restrictions, voire de pauvreté, hein, à laquelle vous n'étiez pas habitué. Qu'est-ce qui se passe alors dans votre tête ?
Tout se mélange. Je découvre des choses extrêmement négatives, comme l'antisémitisme, l'ostracisation. Je découvre ça à un âge où on a encore le sentiment qu'il n'y a aucune raison pour que les gens ne nous aiment pas. On passe tous par là, hein, on voudrait tous être aimés par tout le monde. Et on n'a pas encore la désillusion de l'adolescence ou de l'âge adulte. Et j'ai découvert tout ça. C'est arrivé surtout parce que je me suis retrouvé dans un milieu où j'étais le seul d'origine nord-africaine. C'était à l'époque, c'était le début. J'étais le seul juif, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que il n'y avait aucune raison, je veux dire, je ne criais pas mon judaïsme partout, je m'en cachais pas non plus, mais je veux dire, il n'y avait aucune raison. Sauf qu'une fois, quelqu'un m'a parlé de sa première communion et du fait qu'il est obligé d'aller systématiquement à l'église. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Et pourquoi ? Ben parce que je suis juif, et puis là, ça a dégénéré. C'est des détails comme ça qui frappent une jeunesse. Et comme l'atmosphère générale était relativement négative, pardon, il se trouve que même les enseignants ou les surveillants ne manifestaient pas beaucoup de bienveillance à mon endroit. Et donc, comme je l'ai écrit, c'est là que j'ai appris l'injustice.
Et puis il y a l'arrivée au Canada, oui. Sans diplôme ni relation initiale. Comment vous avez réussi à vous frayer un chemin dans une carrière aussi prestigieuse, à vous intégrer à la population canadienne avec le parcours précédent de la Tunisie et puis cette période française un peu compliquée, hein. Et pourquoi le Canada ?
Alors, le Canada, parce que j'ai rejoint Nicole qui m'a précédé de quelques mois. Et il n'était pas question qu'on reste au Canada. Et en fait, moi, je revenais d'un séjour en Israël. Son papa était un sioniste convaincu qui avait immigré en Palestine depuis la Roumanie natale. Donc, on avait des atomes crochus. Et elle a accepté un poste ici. Donc, il était question qu'elle passe son année, enfin ici, je veux dire au Canada. Il était question qu'elle passe son année là, qu'elle revienne en France. Et de là, nous repartirions pour immigrer en Israël. C'était ça le plan. Mais tout a été chamboulé, je suis venu la voir pour les vacances de Noël et puis je suis resté.
Et alors au niveau professionnel, comment on gravit les échelons aussi facilement ? Est-ce que c'était facile d'ailleurs ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, même si j'y mets des limites, il y a le mektoub. Les choses s'alignent. Et en langage plus vernaculaire, on parlerait d'une analyse enlignement des astres. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé et je me suis beaucoup investi sur le plan communautaire. Pas dans la communauté juive d'ailleurs, mais dans mon milieu géographique. Et tranquillement, les gens ont découvert des choses que moi j'ignorais de moi-même. Et donc tranquillement, j'ai poussé un peu les choses. J'ai commencé à me faire élire à un niveau très local, à une commission scolaire, parce que là-bas on est organisé en commission scolaire, parce que je voulais redresser un tort où une candidate avait été battue parce qu'elle était noire, et je ne pouvais pas accepter ça. Donc je m'étais présenté contre le président lui-même sortant, et j'avais gagné. Donc c'est toutes ces choses-là qui se sont accumulées. Mais je pense que quand vous avez dit très gentiment que j'étais animé d'un humanisme fondamental, vous avez aussi parlé de nos origines en Tunisie et du fait qu'on côtoyait des gens différents de nous en Tunisie, et qu'on y était bien. Ça a conditionné toute ma perception de l'homme, en général, avec un grand H. Naturellement, spontanément, j'ai tendance à me dire que je fais confiance, et ben, tant pis si je me trompe, je changerai d'avis. Et donc, faire confiance aux gens, ça veut dire les accepter comme ils sont. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Dans le sens que, comme c'est naturel, c'était authentique, et les gens ont été attirés par ça. Et c'est ça qui m'a permis, effectivement, de me faire un nom sur la place publique.
Alors, il y a cette valeur hein, que vous venez d'expliquer, l'humanisme. Il y a aussi un amour pour le français, pour la langue française. Oui. Et puis, ce sionisme, vous y passez brièvement. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces deux autres valeurs ?
Le sionisme, d'abord, c'est le milieu dans lequel j'ai été élevé, dans lequel j'ai grandi, et dans lequel j'ai évolué, même une fois qu'on a quitté la Tunisie, etc. C'était le milieu très traditionnel, juif d'origine tunisienne, avec la Sina le samedi, avec des traditions aussi bien culinaires que religieuses, etc. Enfin, d'une façon très modeste. Ça marque fondamentalement. Et j'ai grandi dans l'amour d'Israël. J'ai grandi dans cet amour d'une patrie qui nous rassemble, qui nous ressemble, et qui soit le reflet d'un idéal que je caressais à l'époque et que je caresse toujours.
Est-ce que les événements d'aujourd'hui, post 7 octobre, vous affectent ?
Bien sûr, c'est évident. C'est évident parce que d'abord, la vulnérabilité qu'on a montrée est extrêmement inquiétante et il faut corriger ces choses-là, mais c'est même pas tellement ça, c'est qu'on a vécu en fait quelque chose que je ne connaissais que par les livres de la Shoah. On a vécu une horreur dont on pensait qu'elle était dépassée. Et on a vécu cette horreur-là commise par des gens dont la seule ambition est de nous éradiquer. On a vu encore, même très récemment, ce qui est arrivé avec les otages qu'on a retrouvés, etc. C'est d'une sauvagerie sans nom. Et je vais dire ça comme ça, ça ne rend pas service à la cause palestinienne. Ça ne rend pas service à la perspective d'une paix, quelle qu'elle soit, dans la région. L'ennemi, comme je l'ai vu, comme je le vois, ce n'est pas les Palestiniens, c'est le Hamas, c'est ce qu'on appelle l'axe de la résistance sous la direction de l'Iran, c'est l'islamisation. C'est là qu'est la menace. C'est pas la création d'un État palestinien qui est la menace. Et donc forcément, j'ai vécu tout ça un peu dans cette perspective-là. Et j'en veux à ceux qui ont fait ça de vouloir me cantonner à répondre par leur racisme à eux. Je refuse de faire ça. Je refuse de répondre au racisme par le racisme.
En a résulté, en Europe, en France notamment, une vague, une explosion même d'antisémitisme. Est-ce que c'est la même chose au Canada ? Comment ça se passe depuis le 7 octobre ?
Alors, le musée de l'Holocauste de Montréal a procédé à une enquête publique, un sondage, et on a constaté qu'en fait, il semblerait que les chiffres ne varient pas beaucoup par rapport à ceux que nous avions avant en termes de pourcentage d'antisémites potentiels. Mais par contre, on a constaté, comme ici, une recrudescence de la violence de la manifestation antisémite. Ça, c'était une chose qui est frappante. C'est comme si le 7 octobre avait ouvert la porte à un antisémitisme débridé, violent, ouvert et sans complexe.
Comment les pouvoirs publics luttent au Canada contre l'antisémitisme ?
Il faut dire qu'on a quand même beaucoup de chance au Canada dans ce sens-là. Les gouvernements ont été unanimes à condamner le Hamas. Vous savez que quand on fait l'inventaire des votes à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Canada est le deuxième pays au monde derrière les États-Unis sur le plan d'appui à Israël. Il y a des lois très rigoureuses contre le complotisme, contre la propagation de la haine antisémite, etc. C'est pas encore suffisant, il y a toujours mieux à faire. Alors bien sûr, il y a des incidents graves, mais en même temps, on a on est un peu rassuré par le fait que tous les partis politiques, pratiquement, pas tous, mais presque tous, ont été, en tout cas les grands partis, ont été extrêmement forts et solidaires de la population juive du Canada.
On va revenir à votre livre du jasmin à l'érable. Est-ce qu'il faut dire un roman ou un récit autobiographique ? Ou un ouvrage, un livre ?
C'est une autobiographie. En fait, oui. J'en avais déjà fait une première. Mm-hmm. Et quand je l'ai relue après quelques temps, j'ai trouvé moins intéressante que quand je l'avais écrite. Et donc, je l'ai refaite en augmentant, parce qu'entre-temps, j'ai eu des responsabilités pour la communauté séfarade, ensuite pour le musée de l'Holocauste. J'ai pris de la perspective un peu sur certaines choses. Et je me suis penché sur une question qui m'intéresse beaucoup, 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 justement parce que je suis foncièrement sioniste et que j'ai horreur de l'injustice. Je me suis penché sur ce qui arrive aux Nations Unies. Ça transparaît un petit peu dans mon ouvrage. C'est effectivement une, Cet ouvrage-là, c'est en fait une combinaison de choses très personnelles, de choses très politiques. Ce qui est personnel est subjectif. Ce qui est politique est recherché, donc les faits sont vérifiables, etc. C'est une autobiographie mise en contexte.
Alors, vous l'expliquez d'ailleurs dans l'avant-propos avec beaucoup d'honnêteté, que ce sont des mémoires revisitées hein, par le temps passé et que peut-être tout n'est pas juste, mais en tout cas c'est ce qui vous reste.
Oui.
Et j'ai trouvé ça très honnête de le dire parce que c'est pas toujours le cas.
Oui, ouais. J'ai pas de mérite, c'est comme ça que je l'ai pensé, c'est comme ça que je l'ai ressenti. D'ailleurs, c'est non seulement comme ça que j'ai ressenti, mais je vous raconte que par exemple, quand j'ai écrit mon livre, mon épouse Nicole m'a a relu mes textes 50 fois avec d'ailleurs mes filles aussi ont relu ça, pour m'aider. Le titre de mon livre vient de ma fille aînée. C'est elle qui l'a créé. Et ma femme, en lisant mes textes, me disait, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et alors, moi, mon souvenir, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors finalement, je suis obligé de dire, ben écoute, écris tes mémoires et je vais respecter ce que tu vas écrire. Moi, je vais écrire ce que je pense qui est arrivé. Et c'était bien sûr très, très, très chaleureusement fait et très sympathique. Mais non, je ne peux pas prétendre à une vérité absolue. Je n'ai pas la vérité absolue.
Je vais me permettre de lire l'incipit de votre livre parce que je trouve que ça donnera un aperçu aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom de la qualité de votre écriture. Vous écrivez au commencement, quand la mémoire s'ébauche, elle s'imprègne du récit des autres. On vous répète la même histoire, tu n'avais même pas 3 ans quand. On finit par ne plus savoir si on se souvient du récit de l'événement ou de l'événement lui-même. Cette ambiguïté, c'est la première infidélité de la mémoire. La mémoire est faite d'infidélité. L'appartement où je suis née me paraissait si grand. Quand je l'ai revu pour la première fois après une quarantaine d'années, il avait tellement rétréci qu'il en était devenu minuscule. Je ne savais pas que papa, dont le caractère autoritaire était à la fois inquiétant et rassurant, était si fragile. Le temps avait progressivement fusionné les images. Raconter une vie, c'est évoquer des souvenirs que de bonne foi on croit précis. Mais comment peuvent-ils l'être ? Une conversation impromptue avec un vieil oncle quasi centenaire, une photo découverte dans une vieille boîte à chaussures ébranle nos certitudes. La vérité s'infléchit, se module. Le temps et la compréhension des choses de la vie donnent à ces souvenirs une teinte changeante. Il y a une impression que j'ai lue à vous lire. Vous parliez en introduction de la question de la transmission pour vos enfants et surtout vos petits-enfants. Cette impression que finalement... vous ne leur avez peut-être pas transmis les rites juifs, peut-être que je me trompe, hein, que vous avez reçus de votre famille, votre père notamment, quand vous étiez enfant. Est-ce que c'est une juste. Impression justifiée ?
Non, c'est juste. C'est juste, et peut-être c'est mon grand regret. C'est mon grand regret parce que je pense que j'aurais pu faire mieux en termes de responsabilité de transmission de nos traditions, etc. Mais vivant à Montréal, dans un quartier qui n'était pas un quartier juif, entouré d'une collection de communautés différentes dans lesquelles je m'épanouissais, j'ai pas éprouvé ce besoin fondamental. Ça m'est revenu plus tard. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et j'en parlais avec des amis à Montréal, quand on m'a offert la présidence de la communauté séfarade unifiée du Québec, ça a été un magnifique retour aux sources pour moi. Et ce que j'ai pas pu transmettre ou ce que j'ai pas su transmettre, j'espère qu'au moins par cette expérience et le récit que j'en fais, il va pouvoir en rester quelque chose pour mes enfants.
Vous parlez de communauté séfarade, majoritairement au Canada, ce sont des Juifs d'origine marocaine, non ? Des Tunisiens, il y en a très peu.
Très peu, c'est surtout des Marocains. Mm-hmm. Il y a environ 24 000 Juifs séfarades à Montréal. Je parle de Montréal seulement.
Oui.
Enfin, le Québec, mais c'est surtout Montréal. Sur ces 24 000-là, il y a probablement aux environs de 92% qui sont des Marocains.
D'accord. Et donc ces traditions judéo-tunisiennes, finalement, elles sont très peu présentes au Canada.
Oui, mais elles se ressemblent beaucoup, vous savez.
Oui.
Il y a, d'ailleurs, on s'amuse bien parce que des fois, il y a des mots dont je me souviens qu'on les prononçait en arabe et puis ils ne les prononcent pas de la même façon. Alors, on se parle, ma fille a épousé, enfin l'une de mes filles a épousé un juif séfarade d'origine marocaine, donc avec les parents avec qui on s'entend bien, on en parle souvent, etc. Enfin, on s'amuse à se faire des comparaisons de prononciation. Mais il y a beaucoup, beaucoup de points semblables, beaucoup de points communs.
Vous avez traversé au cours de votre vie plusieurs contextes historiques, en Tunisie, en France, un tout petit peu en Israël et au Canada. Comment vous avez navigué entre ces transitions culturelles ? Et qu'est-ce qui vous a été le plus difficile à surmonter ?
Ce qui m'a aidé le plus, c'est peut-être une chose, une qualité que j'ai, et j'en parle avec beaucoup de modestie, mais je m'adapte très vite, très bien, et à beaucoup, beaucoup de circonstances différentes. Et ça a été une force, j'ai rien fait pour ça, je veux dire, elle m'est venue, j'ai pas de mérite, mais c'est pour ça que, par exemple, dans ma circonscription où j'ai été élu, où il y avait quelque chose comme environ 70 communautés culturelles différentes qui cohabitaient, je me sentais aussi à l'aise dans une activité de nouvel an chinois que dans une mosquée à aller fêter l'Aïn Fitr et puis des trucs comme ça. Ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé. En ce qui concerne la plus grande difficulté, elle a été de traverser une espèce de premier rideau où on avait un préjugé par rapport à mon nom, par rapport à mes origines. Il a fallu surmonter ça. Mais une fois qu'on surmonte ça, ceux qui étaient hésitants finissent par être vos meilleurs appuis, vos meilleurs piliers, vos meilleurs ambassadeurs. Et c'est comme ça que c'est arrivé.
Et c'est comme ça aussi qu'on voit que votre livre est passionnant à lire, et notamment pour les jeunes générations, cette capacité d'adaptation, quels que soient les diplômes que l'on possède, c'est faire montre d'une grande intelligence.
Écoutez, c'est gentil de dire ça. Moi, je pense que c'est une question de survie. C'est-à-dire que l'être humain est fait de telle façon qu'il s'adapte à des circonstances extrêmement difficiles. Il y a toujours une façon de rebondir. Enfin, cette résilience-là, c'est un mot qu'on emploie beaucoup. Mais c'est une... Boris Cyrulnik l'a développé d'une façon très concrète et très intelligente et fine. Mais c'est la condition fondamentale de notre survie, c'est la résilience. Le peuple juif est bien placé pour le savoir. Tant de civilisations ont essayé de le détruire et nous sommes encore là.
Le livre s'appelle Du jasmin à l'érable, mais ça aurait pu être Du petit juif tunisien au ministre.
Oui. Vous savez, le titre de ministre, j'en suis très fier, bien entendu. Mais pour moi, ce qui était important, c'est pas le titre. Pour moi, ce qui était important, c'est que ça m'a permis de faire. Indépendamment de mes fonctions de parlementaire, etc. J'ai pu montrer que c'était possible. Le plafond de verre a été cassé. Et je crois que c'est ça, ma plus grande fierté, c'est ça. Il y a une jeune femme juive, séfarade, qui a été élue au Parlement du Québec cette fois-ci. Moi, j'étais au fédéral, à Ottawa, Parlement du Québec, et qui est devenue maintenant ministre au gouvernement du Québec. Elle a reconnu dans elle-même que j'avais ouvert la porte et de préparer le terrain pour une jeunesse qui peut s'affirmer en ayant des modèles. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, je dis ça en toute modestie, bien sûr, mais c'est ce qui me rend particulièrement fier.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Jacques Saada, qui nous parle de son livre « Du jasmin à l'érable » qui vient de paraître chez Balzac éditeur. Le temps tourne vite, j'ai beaucoup de questions à vous poser et je vais sans doute les limiter. Parler de questions de transmission, parler d'émotions. Vous décrivez vous-même ce livre comme une peinture d'émotions, de passion et d'humanité en dernière de couverture. Pour vous, quelles sont les émotions qui ont dominé durant les moments les plus cruciaux de votre vie?
Les émotions, c'est tout le temps qu'il faut avoir l'ouverture de les accueillir. Il n'y a pas d'émotion dont on doit avoir honte. Et on a beau avoir les responsabilités qu'on a, il n'y a aucune raison de ne pas croire en ce que nous faisons, de ne pas... Vous savez, le fait d'aider une dame qui vient vous voir avec un problème à régler pour des questions qui l'empêchent de dormir et qu'on règle ce problème-là, de voir cette dame-là heureuse, pour moi, ça me rend heureux. De voir, par exemple, que au sommet de la francophonie à Ouagadougou en 2004, il y avait une tentative de la part de certains pays de recréer d'urban avec toute la question du racisme et d'antisémitisme, etc. Et que j'avais réussi, comme ministre de la francophonie, à empêcher que ça arrive et à bloquer cette résolution-là. Ça me remplit d'émotion aussi, parce que ça me permet de dire j'ai fait ma part, j'ai fait quelque chose pour aider mes causes.
Vous l'avez dit, hein, vous avez fondé une famille nombreuse et unie, malgré hein, des épreuves, peut-être parfois des drames. Comment vous avez réussi à maintenir cette unité familiale face aux défis que vous avez rencontrés ?
Vous savez, comme on dit habituellement, il faut être deux pour danser le tango. Alors d'abord...
C'est Nicole ?
Nicole, voilà. Et après ça, bah, c'est les enfants eux-mêmes qui contribuent à ça. Je veux dire, vous savez, on ne peut pas contrôler la direction d'une vie. On a 12 petits-enfants, on ne peut pas contrôler la direction de 12 vies en plus des 4 enfants. Chacun fait sa part et chacun... Je crois que ce qui me frappe le plus et ce qui me rend le plus fier, c'est vraiment ces valeurs que nos enfants et petits-enfants transportent tous ensemble, chacun à leur façon. Où je me retrouve, où Nicole se retrouve... C'est ça, je crois, notre plus grande réussite.
Est-ce qu'il y a eu des moments, quand vous regardez en arrière, où vous avez douté de votre choix de vie, au niveau personnel ou professionnel ? Qu'est-ce que vous auriez refait ou pas ?
C'est difficile de comparer une théorie à une réalité. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, j'ai été très heureux dans ma vie. Je suis super bien entouré dans ma vie. Pourquoi voudriez-vous que je change autre chose que ça ? Non. Mais c'est sûr qu'on se dit qu'on aurait peut-être pu, je sais pas moi, faire des choses différemment. Peut-être que, effectivement, mon regret de ne pas avoir transmis de façon aussi fidèle que j'aurais dû ces valeurs fondamentales du judaïsme, etc. Pas les valeurs. Les valeurs sont transmises. C'est les rites, c'est les traditions. Mais non, dans l'ensemble, je pense que... Vous savez, il y a une église tout près de chez nous, le toit tombait en morceaux, puis je me suis battu pour réussir à ramasser ce qu'il fallait pour les aider. Et alors, bien sûr, un juif qui aide à construire, à refaire le toit d'une église. Il y a une mosquée, pas très loin de chez nous, un centre communautaire musulman, et il y avait des problèmes énormes, et on m'a demandé d'intervenir pour agir comme médiateur, ce que j'ai fait, et on a fini par le faire. Je regarde ces choses-là et je me dis, c'est bien, c'est juste bien.
Quel est le message principal que vous aimeriez que les lecteurs retiennent de la lecture de votre livre, du Jasmin à l'érable, s'il y a un message ?
Ça serait prétentieux de dire qu'il y a un message. J'ai exprimé des émotions, j'ai exprimé une histoire, j'ai mis ça dans un contexte politique très, très, très fouillé, très structuré. Mais en même temps, c'est rempli d'anecdotes qui m'ont comblé de bonheur. Quand on a réussi à sauver 2 enfants qui allaient être victimes de guerre civile au Congo, ou quand on a réussi à retrouver le mari d'une... famille, enfin, d'une dame kosovare qui était venue en réfugié à Montréal. Quand on a... Je veux dire... Non, il n'y a pas de leçon à tirer. Il n'y a pas d'enseignement à tirer. Il n'y a que l'expression d'émotions qui m'ont comblé.
Vous êtes de passage à Paris pour quelques jours. Vous serez notamment le mercredi 18 septembre à la synagogue du 11e du CJL, 10-12 rue Moufle, et vous y donnerez une conférence sur le thème « L'ONU favorise-t-elle l'antisémitisme ?» Et le public aura l'occasion à la fois de vous écouter, mais en même temps de se procurer une dédicace de votre livre. Pourquoi le choix de ce thème « L'ONU favorise-t-elle l'antisémitisme ?»
Vous savez, très peu de gens ont réfléchi au fait que les fondements même de l'ONU, c'est le tikkun olam, c'est la réparation du monde. Quand les Nations Unies étaient créées, c'était ça l'objectif principal. Or, l'ONU fait de magnifiques choses, sauf quand il s'agit d'Israël. Et il y a des injustices fondamentales, donc j'ai fait des recherches, non seulement l'Assemblée Générale, mais les agences, en parlant de... par exemple, l'UNESCO, en parlant du Comité des droits de l'homme, en parlant de UNWA, bien sûr, l'organisation d'aide aux réfugiés palestiniens. Il y a tellement d'injustices fondamentales que je ne pouvais pas rester silencieux. Ça, je crois que c'est le rabbin Cook qui a dit « Je ne parle pas parce que j'ai la force de parler, je parle parce que je n'ai pas la force de garder le silence ».
Alors, on le rappelle, c'est le mercredi 18 septembre à partir de 19h à la synagogue du 11e du CGL, 10-12 rue Moufle. Et puis, celles et ceux qui auraient envie d'acheter le livre en librairie pourront obtenir une dédicace en venant sur place ce soir-là. Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour conclure cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie à nos auditeurs de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
La vie est une histoire extrêmement riche. Chaque vie, peu importe quelle qu'elle soit, modeste ou prestigieuse, je vous fais cadeau d'une partie de la mienne, en espérant qu'elle pourra vous intéresser.
Et c'est un beau cadeau, vraiment, c'est un plaisir.